On en vient donc maintenant à cette émission spéciale que nous vous proposons jusqu'à 13h en direct avec la COP21, notamment il y a quelques semaines. On a beaucoup entendu parler de lutte contre le réchauffement climatique. Eh bien, pendant l'heure qui vient, grâce au travail des étudiants du département génie thermique et énergie de l'UT d'Allier, le site de Montluçon, on va faire un focus sur les actions locales pour lutter justement contre le réchauffement climatique. Tout le monde est avec nous en studio. Vincent Fabre, notamment, bonjour.
Bonjour.
Intervenant pour l'IUT sur ces projets-là et notamment en matière de communication. Pourquoi ce projet ?
Eh bien, comme vous l'avez dit, il y a eu la COP21 en novembre-décembre dernier. Les étudiants de première année qui venaient d'arriver ont travaillé sur ce sujet en disant quel lien avec l'énergie ? Et puis, il y avait certains étudiants qui disaient « Ouais, c'est que du papier, des gens qui discutent là-haut à Paris. » Sauf que quand même, quand on s'engage sur des réductions de gaz à effet de serre, ça veut bien dire qu'à un moment donné, il y a des actions concrètes. Donc on s'est dit, au semestre 2, on va aller regarder à Montluçon, puisqu'on est à Montluçon, qu'est-ce qui se fait et qui permet de diminuer les gaz à effet de serre. Mm-hmm. En gros, c'était ça le point de départ.
Alors, est-ce que c'est vous ou est-ce que ce sont les étudiants qui ont été voir ?
Alors, ce sont les étudiants qui sont allés voir. Le but, c'était effectivement à la fois qu'ils travaillent la communication. Vous le savez mieux que moi, la radio, c'est un bon outil de communication. Donc l'oral, l'écrit, et puis travailler le projet professionnel et voir des gens.
Donc on va écouter notamment ces divers reportages que ces étudiants ont pu réaliser dans la grande agglomération montluçonnaise dans un instant, et puis vous apprendrez plein de choses, notamment par rapport au réchauffement climatique et les actions pour limiter ce réchauffement d'ici quelques instants. On se retrouve juste après cette courte pause. RJFM, émission spéciale par rapport au réchauffement climatique, avec donc une émission réalisée avec les étudiants en département GTE de l'IUT d'Allier de Montluçon. Avec nous notamment le chef du département GTE, Fabien Forestier, bonjour.
Bonjour.
Alors comment s'est monté ce projet concrètement? Expliquez-nous un petit peu.
Sur la partie projet, je pense que monsieur Fab pourra en parler un petit peu mieux. Si vous me permettez, moi ce que j'aimerais faire, c'est un petit peu présenter le département génie thermique et énergie, insister sur 2-3 points clés. Ce que j'aimerais bien qu'on retienne, c'est que ce département, il permet d'avoir de l'emploi à la sortie. Environ 90% de nos étudiants vont trouver un travail un an après avoir fait ces études. Uh-huh. 80% d'entre eux trouveront de l'emploi en CDI. Donc c'est des chiffres assez intéressants et pas forcément communs dans la période actuelle. Un autre point qui est fort pour cette formation, c'est que c'est une formation de haut niveau. La moitié des étudiants poursuivront en école d'ingénieurs, avec des écoles d'ingénieurs prestigieuses. INSA, ENSAM, Réseau Polytech, par exemple. L'autre moitié fera une poursuite d'études plus courte. C'est ce qui est une licence professionnelle, donc simplement un an d'études, bac plus 3. Mais c'est quand même du haut niveau parce qu'ils auront des métiers à responsabilité. En général, 5 ans après avoir pris leur premier emploi, ils seront chargés d'affaires, responsables de projets, donc des salaires intéressants, des tâches intéressantes à faire. Un autre point qui est important dans nos formations, là, le dernier point que je voudrais donner, c'est que c'est des formations professionnalisantes en peu d'années. Donc on voit soit dès la sortie du DUT on peut aller chercher du travail, soit on fait une poursuite d'études courtes pour la moitié de nos étudiants, soit on va jusqu'à 5 ans pour finir ingénieur. Et dans tous les cas, on aura un métier reconnu par les professionnels, et cet aspect professionnalisant, c'est un point fort de notre DUT, en particulier avec un stage long.
Combien d'élèves actuellement en GTE là?
Donc les promotions, on en a deux, c'est en 2 ans, première et deuxième année, à peu près 40 étudiants par promotion.
De la région montluçonnaise ou pas seulement?
Pas forcément, on a les étudiants locaux, en particulier on a beaucoup de lycéens qui nous viennent du lycée Paul Constant avec les bacs STI 2D, uh-huh. Quelques lycéens qui nous viennent du LEM, et sinon après on élargit Clermont-Ferrand et puis même plus jusqu'à l'Auvergne et même plus loin.
D'accord. Pour la rentrée prochaine, vous êtes déjà booké, comment ça se passe?
On estime qu'on sera dans les 45 étudiants, on a une capacité d'accueil de 52, donc on cherche encore à recruter, mais c'est des chiffres qui nous conviennent bien, qui remplissent nos classes de travaux dirigés, nos salles de TP.
Et concrètement, ce projet est assez original quand même là, hein?
Oui, ben là je remercie beaucoup monsieur Fabre, donc qui s'occupe de la communication et d'une matière qui s'appelle le projet personnel et professionnel, d'avoir eu cette idée, d'avoir mis en lien les enseignements avec l'actualité. Je pense que j'espère que ça intéresse les étudiants, ils pourront le dire tout à l'heure.
Mais on va leur poser la question de suite d'ailleurs, parce qu'on accueille avec nous Eve-Anne Rastel et puis Andrea Jacquard. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Alors
bonjour.
Tout d'abord, donc vous êtes les représentants des élèves, hein, parce que vous êtes nombreux à la base, mais vous êtes les seul à avoir eu le courage de venir à l'antenne en direct. Il faut bien l'avouer quand même. Bravo à vous. Comment vous avez perçu ce projet, vous, personnellement? Comment vous l'avez perçu?
Ben, du point de vue personnel, ça nous a permis de voir comment on crée une émission radio. Donc c'était très intéressant de voir votre travail, ce que vous faites tous les jours, aller chercher l'information, la mettre en forme et ensuite la diffuser. Donc c'était très enrichissant. Et en plus, c'est un bonus, on va dire, pour après, pour plus tard, de savoir, de pouvoir passer à l'antenne et de savoir, de parler à l'oral.
Et voilà, s'exprimer, exactement.
Exactement.
Et vous, sur le travail que vous avez fait vous-même? Comment ça s'est passé? Est-ce que c'était aussi quelque chose qui va être peut-être important pour la suite de vos études? En tout cas, ça vous a apporté quelque chose, j'imagine?
Oui, ça nous a apporté quelque chose, évidemment. Ça nous a permis de nous rendre compte comment est-ce qu'une émission de radio pouvait être réalisée. Et au niveau de la réalisation de ce projet, c'est bien passé. Hein. Toute la promo a été divisée en groupes de travail. Hein. Un groupe de travail était composé d'environ 4 étudiants. Et chaque groupe devait travailler, devait rechercher un projet réalisé à Montluçon ou dans ses environs, dont le but était de réduire les émissions de gaz à effet de serre.
D'accord. Donc dans un instant, on va écouter 11 petits modules d'environ 1 minute 30, hein, réalisés donc par des duos, des trios d'élèves, hein, j'imagine, c'est ça? C'est un peu plus même.
Même 4 même. Un quatuor, parfois des trios, mais des fois des quatuors.
D'accord, jusqu'à 4, donc en tout cas. Et vous avez rencontré aussi, ce qui est intéressant, beaucoup d'acteurs locaux, hein, acteurs de la filière énergie au niveau local, c'est ça, c'est vraiment important. Vous avez découvert qui concrètement, vous d'ailleurs? Vous fait une enquête sur quoi?
Alors nous, c'était pas des applications concrètes. On a travaillé plus sur le côté communication de la COP21.
D'accord.
On le verra plus tard, on a travaillé sur une simulation faite par des lycéens. Donc
d'accord.
On n'a pas rencontré des acteurs.
D'accord. Okay. Oui, c'est le dernier module qu'on va écouter d'ailleurs juste avant 13h. Bah, je vous propose d'écouter le premier peut-être éventuellement, parce qu'il faut penser à l'énergie, hein, c'est ça. Alors, expliquez-nous un petit peu pourquoi on commence par ce sujet peut-être.
Oui, bah, alors peut-être effectivement donner quelques explications. Tout simplement, comme on l'a dit, des étudiants en génie thermique et énergie, le lien entre gaz à effet de serre et production d'énergie, il est très important. Le secteur de l'énergie, c'est 70% à peu près de nos émissions de gaz à effet de serre. Évidemment, si on veut agir sur leur réduction, faut agir sur l'énergie.
Uh-huh.
Donc c'était le premier point. Deuxième point, les étudiants souhaitent aller vers des questions de production. Donc, assez logiquement, on a essayé de voir ça avec Dalkia, avec photovoltaïque, par exemple. Alors le premier sujet, c'est la méthanisation.
D'accord. Alors la méthanisation, on va être schématique pour que les auditeurs comprennent. En fait, vous allez comprendre, c'est assez simple, hein, Vincent.
Peut-être. Oui, alors le sujet va expliquer.
Oui,
mais c'est faire de l'énergie avec des déchets.
Voilà.
Et des déchets, parfois, des excréments, tout simplement, pour ce qui se concerne ce sujet-là.
D'accord. Alors, qui a préparé ce sujet-là?
Alors, David, Thomas, Paul et Thomas également, Auchard et Thomas Chopineau, pour les différencier.
Eh bien, c'est parti. Voici ce premier module, donc, sur la méthanisation.
Alain Boulicot, président de DADEBV, nous présente le projet des Villefranches d'Allier.
Pour nous, au départ, c'était vraiment un projet de territoire où on voulait faire vivre ensemble, sur un même projet, plusieurs acteurs économiques. Ça nous semblait primordial pour faire accepter le projet par la population. On n'avait pas du tout de réticence de la part de la population, au contraire, on était assez bien accueillis.
Le biogaz créé est transformé en chaleur et utilisé par la Socabiac. La Digesta est récupérée par les agriculteurs.
35 éleveurs ont pris des engagements sur 15 ans pour des volumes, et le souci qu'on a aujourd'hui, c'est que l'industriel ne prend pas l'engagement, qu'on est dans une phase d'attente qui sera plus ou moins longue, on ne sait pas, et qui malheureusement peut peut-être même conduire à l'arrêt carrément du projet. L'intérêt des éleveurs, c'était surtout sur un projet commun avec un industriel, de pérenniser l'outil d'abattage et de transformation.
Le biogaz créé est transformé en chaleur et utilisé par la Socabiac. La Digesta est récupérée par les agriculteurs. La méthanisation permet de créer de l'énergie verte, mais pas seulement, comme nous l'explique Benoît Simonnet, technicien de la coopérative Socabiac.
Le fumier, justement, ce qui produit du méthane, souvent, c'est quand le fumier est en tas au champ, il y a cette fermentation qui se fait, donc du méthane qui est produit, rejeté dans l'atmosphère. Là, l'idée, c'est quand même bien, c'est que ce méthane, il sert à quelque chose, donc c'était à produire de l'énergie.
Laissons le mot de la fin à M. Boulicot.
Savoir qu'avec avec des déchets, on puisse arriver à faire de l'énergie, je crois que c'est quand même un joli projet. C'est ce qui nous tenait à cœur.
agence Élise Avenue vous propose sa rubrique immobilière.
Bienvenue dans votre rubrique immobilière sur RJFM. Aujourd'hui, l'agence Élise Avenue vous propose secteur calme de Désertines, pavillon de plein pied F5 sur sous-sol semi-enterré, buanderie, cave, garage et dépendance sur un terrain clos de 1240 m², 217 300 euros. Centre-ville de Montluçon, un appartement F3 en très bon état général avec un spacieux séjour et une superbe vue sur le Cher, balcon et cave. À visiter rapidement, 88 000 euros. Notez que les prix indiqués dans cette rubrique sont frais d'agence inclus. Élise Avenue, entre maison et appartement, c'est plus d'une centaine de biens à votre disposition sur Montluçon et ses environs. Alors pour plus de renseignements, n'hésitez pas à rencontrer l'équipe d'Élise Avenue, place Bretonnier à Montluçon. Ou bien téléphoner au 04 70 03 63 58. À bientôt pour de nouvelles annonces sur RJFM.
Élise Avenue, toute transaction immobilière, achat, vente. Élise Avenue, c'est un nombre important de biens à votre disposition. Quel que soit votre projet, n'hésitez pas à venir nous rencontrer place Bretonnier à Montluçon. Élise Avenue, une autre façon de voir l'immobilier.
À Montluçon, les chambres de commerce et d'industrie de l'Allier organisent un événement à ne pas rater.
Ah oui, j'ai vu ça. C'est dans le cadre du mois de la création.
Exactement. C'est une occasion unique de rencontrer tous les partenaires de la création reprise d'entreprise de notre territoire.
C'est idéal. Il y aura des ateliers thématiques, des crash tests et même une conférence.
Alors on se verra le jeudi 23 juin dès 14h dans les locaux de l'IFAG, quai Louis Blanc à Montluçon.
Oui, j'y serai. Et si tu veux en savoir plus, appelle les chambres de commerce et d'industrie de l'Allier au 04 70 02 50 15.
Campanile, hôtel-restaurant à Saint-Victor, c'est 50 chambres rénovées pour vous apporter toujours plus de confort. Le restaurant Campanile, c'est un espace dédié à de nouveaux plats chaque jour avec des produits frais pour déguster des recettes réinventées et des buffets généreux. Le nouveau Campanile à Saint-Victor, c'est une thématique adaptée au match de l'Euro 2016, avec cuisine dédiée à chaque pays participant. Vivez la formule Euro avec animation et un happy hour de 18h à 19h. Hôtel-restaurant Campanile à Saint-Victor, c'est une terrasse ensoleillée et une nouvelle équipe dynamique à votre service et c'est ouvert à tous.
RJFM, toujours au cœur de cette émission, présentée et préparée notamment par eh bien, les étudiants de l'IUT de Montluçon sur l'environnement. On va revenir un instant sur le petit module qu'on a écouté juste avant la petite pause sur la méthanisation donc à Villefranche-d'Allier. Projet encore d'actualité ou pas?
Alors, comme c'était dit dans le sujet, toujours d'actualité, mais en attente d'un engagement fort de l'industriel pour vraiment le lancer. Je dirais que les agriculteurs sont prêts. Ils attendent finalement que l'unité de méthanisation puisse se monter et puisse se mettre en œuvre. Si cette émission peut y contribuer, ce serait très bien.
Voilà. Il y a d'autres projets en cours hein, dans le Val-de-Cher, notamment à la limite aux confins Creuse-Allier, me semble-t-il. Pour l'instant, ça n'a pas vraiment débouché. Il y a des projets.
Voilà, il y a beaucoup de projets de méthanisation, soit sur des projets agricoles relativement réduits, soit des projets industriels comme celui qu'on vient de voir. Saint-Pourçain-sur-Sioule, Cône, par exemple.
D'accord. Alors, des projets plus avancés, on va peut-être évoquer maintenant celui de la centrale biomasse à Commentry. On en a parlé sur cette antenne dans les infos, évidemment. On va peut-être écouter le petit module.
Oui, un petit mot à dire par rapport à ce module-là.
C'est pas forcément non, le leur.
On va peut-être citer juste les étudiants qui l'ont réalisé. Surtout que j'ai fait une erreur, excusez-moi. C'est ceux que j'ai cités tout à l'heure, David, Thomas et Paul, et donc le second Thomas, qui font le projet Commentry. Et on a écouté Loïc, Anthony, Lucas et Charles dans le précédent.
D'accord, et bien voilà, c'est réparé. Voici donc le sujet sur la centrale biomasse donc à Commentry.
À Commentry, à côté de l'usine Adiceo, une centrale biomasse produit silencieusement électricité et énergie thermique, un atout économique et écologique pour la région. Thomas nous explique le fonctionnement.
Implantée en 2015, elle utilise des plaquettes de bois issues des massifs forestiers de la région. Régulièrement, des camions approvisionnent le site qui produit 102 gigawattheures d'électricité par an, soit la consommation d'une commune de 100 000 habitants. La chaleur produite sert au fonctionnement des machines mécaniques via des turbines qu'elle actionne. De plus, elle est injectée dans le réseau de chaleur de l'entreprise Adiceo pour répondre à ses besoins en chauffage et électricité qui est injectée dans le réseau public et ainsi accessible à tous.
Thomas, quel intérêt pour la lutte contre le réchauffement climatique?
Avec ce dispositif, Adiceo produit localement l'électricité dont elle a besoin. C'est déjà un avantage économique. Et l'énergie produite est elle-même une énergie propre issue de ressources renouvelables disponibles dans un rayon de 100 km. En ce qui concerne le réchauffement climatique, les responsables d'Adiceo affirment réduire leurs émissions de gaz à effet de serre à hauteur de 46 000 tonnes de CO2 par an. Adiceo étant une usine grande consommatrice d'énergie électrique et thermique, la création d'une centrale biomasse est une solution solution de réduire leur consommation énergétique.
La centrale biomasse de Commentry s'inscrit en plein dans la transition énergétique et dans le développement durable. Elle a un impact écologique, économique, mais aussi social, puisque les sommes économisées sur les factures énergétiques permettent d'investir dans les appareils de production et dans l'emploi.
Et ce n'est pas tout, puisque les déchets de la centrale sont utilisés pour fertiliser les terres agricoles avoisinantes et produire de nouveau de la matière organique. La boucle est bouclée.
Maintenant, le sujet pour Adiceo. Allez-y, je vous en prie, oui. Allez-y, Andrea et Eve-Anne.
Eh ben, comme il n'y a pas de soleil, on vous apporte du soleil. On va direction Douaiet pour étudier les projets de panneaux photovoltaïques.
D'accord, donc c'est parti pour bien du photovoltaïque. Allons-y.
À Douaiet, au lieu dit Les Gouttelles, entre l'autoroute A71 et la départementale 2371, un parc photovoltaïque de 3,2 MW pourrait bientôt voir le jour. Luxel, une entreprise internationale spécialisée dans le domaine de l'énergie solaire, est à la manœuvre.
Pour cela, nous sommes allés interviewer Madame Touzeau, maire de Douaiet.
C'est un terrain qui ne peut pas servir à autre chose puisqu'il y a eu de l'enrobé, des choses comme ça, des graviers, de déposés pendant la construction de l'autoroute. C'est ce que l'on appelle un délaissé d'autoroute. Donc le terrain est, on ne peut pas dire pollué, mais il ne peut pas servir de terrain agricole. Alors, ce qu'il aurait pu apporter, c'est évidemment, on est toujours intéressé par avoir des dotations supplémentaires. Donc, il nous aurait pu nous apporter des taxes, anciennement la taxe professionnelle, et également un loyer, puisque la société Luxel s'installe sur notre terrain et nous verse un loyer.
Nous avons également interviewé M. Boinet, représentant de l'entreprise Luxel, ainsi que chef du projet.
L'objectif, c'est qu'il soit terminé dans tous les cas avant fin 2017. Donc on est sur une puissance totale d'environ 3 mégas. Donc 3 mégas, ça correspond aux alentours de 11 000 panneaux. Sur un investissement total de un peu plus de 3 millions d'euros. On a fait quasiment 4 ans d'études, donc tant sur les aspects techniques, avec effectivement le relevé topographique, tout ce qui est gestion des masques, et après au niveau environnemental et administratif, avec le permis de construire qui a fait l'objet d'une étude d'impact sur l'environnement.
Ce projet fournira donc de l'énergie verte pour les habitants de Douaiet et ses alentours. L'installation de ce parc sur cette commune permettra peut-être l'implantation de projets similaires dans la région dans les années à venir.
Et il y a d'autres projets d'ailleurs en cours, hein, de photovoltaïque. Bon, on attend, hein, dans la région montluçonnaise vraiment les installations des premiers panneaux. On rappelle qu'on parle réchauffement climatique et des actions locales qui favorisent la lutte contre le réchauffement climatique dans cette émission spéciale avec les étudiants du département GTE de l'IUT d'Allier, site de Montluçon. On peut rappeler peut-être les élèves qui ont réalisé ce reportage sur le projet photovoltaïque de Douaiet.
Oui, donc il y a Joris, Thibaut, Étienne et Timothée qui effectivement se sont intéressés à cette centrale photovoltaïque future à venir. C'est intéressant parce que, comme vous le disiez, ça permet de produire de l'électricité avec de l'énergie renouvelable et pas des énergies fossiles. Donc, évidemment, un moyen d'économiser des gaz à effet de serre. J'ajoute que c'est sur un terrain, comme c'était très bien dit, qui n'est pas agricole. Ouais. Le résultat, c'est un terrain qui est quelque part mort et on peut l'utiliser pour ce type d'installation.
Et on attend maintenant la réalisation concrète, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs projets en cours. Après, il faut que les investissements arrivent vraiment concrètement sur
place. C'est un peu comme la méthanisation dont on parlait tout à l'heure. Il y a beaucoup de projets qui sont étudiés, qui sont presque prêts à être installé, et il faut l'investisseur à un moment donné qui franchit le pas. On peut supposer, pour relier à la COP21, que les accords, justement, les engagements pris au niveau national, ça lance l'investissement puisqu'il faut réaliser ses objectifs.
La suite, on enchaîne. Et ben c'est peut-être nos étudiants qui vont présenter le lien avec le prochain sujet qu'on va aborder.
Alors après les panneaux photovoltaïques, on va passer aux panneaux solaires. Donc un projet panneau solaire installé par l'entreprise Dalkia à la cuisine centrale de Montluçon.
Dans un contexte de transition énergétique nationale, Montluçon s'emploie à la rénovation d'anciens systèmes énergétiques. L'entreprise Dalkia est à la manœuvre. Interview de Fabien Boudet, interlocuteur pour le contrat de performance énergétique.
Alors, le contrat de performance énergétique, c'est 3 voire 4 objectifs. Le premier, c'est de suivre la loi Grenelle, hein, comme quoi d'ici 2020, on devait aller vers 38% d'économie d'énergie. Donc nous, là-dessus, on s'est engagé, Dalkia, à faire 17,5% d'économie. Le deuxième objectif, c'était réduire les émissions de gaz. Donc ça, c'est pareil. Du fait des 180 actions qui ont été faites sur l'ensemble des établissements de la ville de Montluçon, eh ben, il y a une réduction de 500 tonnes par an.
Illustration concrète donc du CPE avec le chantier de la cuisine centrale.
Alors, l'installation de la cuisine centrale a été l'objet d'une nouvelle installation au niveau de l'eau chaude sanitaire, puisque c'était l'un des sites où il y avait le plus grand nombre de mètres cubes d'eau chaude utilisés. Donc nous avons préconisé de mettre des capteurs solaires sur le toit avec un stockage d'eau chaude afin que la cuisine centrale puisse faire des économies sur ce site. Donc ce site a été ciblé justement pour l'eau chaude sanitaire, donc pour ces deux points-là, et une réduction donc, d'économie d'énergie de 20%, une économie d'énergie qui est tenue depuis le début du contrat, puisqu'on est à 23 ou 24% d'économie d'énergie.
En plus de diminuer la facture, ces installations du contrat de performance énergétique font du bien au climat en réduisant les émissions de gaz à effet de serre.
Voilà donc un sujet sur Dalkia et les panneaux solaires. Auparavant, on parlait de photovoltaïque, c'est pas la même chose ?
Non, effectivement, une petite précision à apporter. Un panneau photovoltaïque, a pour but de créer de l'électricité avec l'énergie solaire, alors qu'un panneau solaire thermique a juste pour but de réchauffer de l'eau, donc a une création beaucoup plus simple.
D'accord.
Juste des tuyaux qui passent.
D'accord, l'un fait l'électricité, l'autre fait du chauffage, quoi.
Effectivement.
D'accord, c'est sérieux, ok, j'ai tout compris, merci. On enchaîne avec l'isolation.
On va peut-être citer les étudiants qui avaient fait celui-là.
Oui, bien sûr, alors les étudiants qui ont réalisé ce projet étaient Julien, Melvin, Théo et Marvin.
D'accord, on enchaîne avec le suivant, c'est l'isolation.
Oui, alors là ça va être très concret. Les étudiants justement, ils se sont dit, là on a vu des installations un peu lourdes jusqu'à présent, ils se sont dit, mais si on est une personne à Montluçonner lambda et qu'on veut contribuer à diminuer les gaz à effet de serre, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors souvent on est peut-être propriétaire d'un bâti ancien, comme souvent dans Montluçon, avec vous savez, une passoire énergétique et thermique,
sûrement.
On a tous habité ici, et on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Ils se sont dit, il y a un truc simple que tout le monde peut réaliser. L'isolation par l'extérieur, et ils ont voulu simplement donner un mode d'emploi.
Alors c'est quel on fait quoi? On va voir des entreprises locales qui le font déjà, c'est ça?
Tout à fait. Alors ils ont cherché d'abord des particuliers. Ils ont eu du mal à trouver quelqu'un qui voulait témoigner. Alors ils se sont tournés vers un représentant de la SOGEM Mazé qui leur a expliqué justement comment on pouvait faire pour faire de l'isolation par l'extérieur sur sa maison.
D'accord.
Donc si vous avez des projets d'isolation par l'extérieur, eh ben il faut écouter maintenant.
Aujourd'hui, l'isolation est très importante pour réduire les pertes énergétiques, en l'occurrence l'isolation par l'extérieur. Pourquoi choisir ce type d'isolation?
L'isolation par l'extérieur, surtout en rénovation comme en neuf, réduit les pompes thermiques. Une fois que l'intérieur de la maison a une certaine température, la chaleur va mettre moins longtemps à traverser le mur. Et le mur intérieur, de par son inertie, conserve la chaleur, la fraîcheur. Et de même l'hiver, une fois que l'intérieur du bâtiment est à température voulue, l'isolation par l'extérieur va permettre de retarder ou d'empêcher le froid de rentrer.
Pouvez-vous nous donner une approximation du coût?
Alors là, il n'y a pas de règle, faut quand même définir, il y a beaucoup de points qui rentrent en compte, le nombre de fenêtres, des points singuliers, s'il y a des balcons, s'il y a des ouvertures, s'il y a des éclairages, bon, c'est l'échafaudage, l'accessibilité. On peut compter en moyenne un coût de 120 euros TTC du mètre carré.
Pouvez-vous nous informer sur les démarches administratives à suivre?
Une déclaration de travaux auprès de la mairie, si la mairie le souhaite. C'est tout.
Voilà, donc un sujet sur l'isolation réalisée par les étudiants GTE de l'IUT d'Allier de Montluçon.
Alors, Vincent Blanchet, Jonas Aglaé, Yannick Nkoukoun et Milton Chipana. Je le cite en dernier parce que tout à l'heure vous demandiez le département GTE. Ouais. Vous venez les étudiants, vous a cité la région. Cet étudiant, par exemple, il est péruvien, il vient du Pérou.
D'accord.
Donc, vous voyez qu'on va avoir des étudiants qui sont recrutés, comme le disait Fabien Forestier tout à l'heure, assez loin à l'international.
Et alors, quand on écoute un sujet comme celui-ci, avec une entreprise, dans le bâtiment, notamment par rapport à la rénovation et l'isolation, est-ce que ça peut donner quelques idées de débouchés par rapport aux étudiants, justement, qui sont à l'IUT d'Allier ou pas?
Alors, on leur donnera peut-être la parole, mais moi, j'espère, l'idée là, c'était aussi de travailler la communication et le projet professionnel. Autrement dit, trouver des emplois locaux dans des entreprises, dans des installations de production, parce qu'il y a des besoins de travaux, parce qu'il y a des besoins d'études, et donc c'est leur donner des pistes autour de ça.
Donc ça en fait partie. Est-ce que éventuellement ça vous fait envie de travailler dans ce genre de choses ou...
Effectivement, et puis c'est totalement dans notre domaine, et ça nous permet de voir des entreprises qui peuvent potentiellement nous recruter à la sortie de nos études.
D'accord, vous avez récupéré quelques cartes, quoi.
Voilà.
C'est le but aussi.
Oui, je pense même que dans ce qu'on a entendu, les personnes qui ont été interrogées, il y en a certains qui sortent de départements génie thermique énergie, je pense à la centrale photovoltaïque de Douayé, pas forcément de Montluçon, mais c'est cette filière.
D'accord. Là, on est toujours sur le sujet en lien donc avec la production et la consommation d'énergie, avec un dernier sujet par rapport à un projet de rénovation urbaine. Alors, qui nous parle un petit peu de ce sujet-là?
Moi encore peut-être, si vous voulez, parce que c'est un sujet un peu compliqué. Là, l'idée, c'était de partir du particulier. On était sur une maison en individu, mais de travailler sur les mêmes idées, mais au niveau du quartier, et notamment du logement collectif et du quartier de Fontbouillant, pour voir ce qu'on pouvait faire pour réduire les consommations énergétiques et donc les gaz à effet de serre. Et comme il y a eu un gros projet, comme vous le savez, c'était un moyen de faire un petit bilan là-dessus.
D'accord.
Des bâtiments neufs qui ne dépassent pas 3 étages, des rues élargies et des espaces verts recensés, le quartier de Fontbouillant a totalement été transformé au cours des 10 dernières années. Un projet ambitieux pour l'urbanisme et pour l'environnement. Sarah Chazal, responsable du développement.
Ah, c'était un quartier très dense, avec beaucoup d'habitats collectifs, des grandes barres qui avaient été construites dans les années 60, qui répondaient plus aux besoins des locataires, qui étaient pour partie vides et puis un peu mal famés.
En 2004, c'est le lancement du projet de rénovation urbaine appelé PRU. Ce projet fut lancé dans le but d'atteindre certains objectifs comme de retrouver une dynamique sur le plan habitat et économique, mais pas seulement, comme l'atteste la responsable.
Et donc c'était essentiellement de la démolition, et au départ le PNRU prévoyait un logement démoli, un logement reconstruit. On a dû pas mal batailler pour leur dire que chez nous c'était pas adapté si on démolissait, justement c'était aussi pour dédensifier le quartier.
Tout au long de ce projet qui n'est pas encore clôturé, une multitude d'acteurs ont participé, que ce soit en amont, sur le terrain ou encore financièrement.
Et ben donc il y avait l'Agence nationale de renouvellement urbain, donc les projets de démolition étaient financés à 100% par l'État. Une grosse partie du programme qui était aussi la communauté d'agglomération de Montluçon, puisque c'est eux qui se sont occupés des espaces extérieurs et de l'urbanisation. Voilà, nous on s'occupe du bâti et eux ils s'occupent des espaces. Et après, les financeurs classiques du logement social, conseil départemental, conseil régional, la mairie.
Locataire du quartier de Fontbouillant depuis ses 8 ans, Stéphane Cousin, à présent gardien d'immeuble du quartier, est l'une des personnes les plus aptes à nous parler de la vie avant et après les travaux. D'après lui, les travaux ont complètement changé le quartier. Il est beaucoup plus ouvert qu'avant. On peut maintenant parler d'un quartier intégré à la ville. Désormais, des personnes de tout âge sortent et se regroupent. En revanche, l'ambiance est moins familiale. Pour conclure sur les enjeux énergétiques actuels, le renouveau du quartier a permis de se mettre en accord avec les nouvelles normes.
Voilà, accord avec les nouvelles normes, rénovation urbaine. Vous étudiez tout ça évidemment au département GTE de l'IUT d'Allier, mais est-ce que vous donnez l'exemple aussi? C'est ça que j'ai envie de vous poser comme question.
Oui. Voilà, c'est exactement ce sur quoi je voulais rebondir. À l'IUT d'Allier, en ce moment, il y a des gros travaux de rénovation. Si vous venez dans nos locaux, vous vous en rendrez compte, hein. Il y a tout un bâtiment qui a été entièrement désossé. On a gardé que la structure et on est en train entièrement de le reconstruire. Donc, on va le mettre aux réglementations actuelles, pour les spécialistes qu'on appelle la réglementation thermique 2012. Mais surtout, dans une petite zone, sur une 60 mètres carrés, on va en faire un démonstrateur. Donc, on va faire tout ce qu'on sait faire de mieux actuellement au niveau thermique, triple vitrage, isolation par l'extérieur, grande baie vitrée orientée au sud, tout ça devant nous amener à un bâtiment qui sera labellisé passif, donc qui n'a pas besoin de système de chauffage pour maintenir une température agréable. Donc c'est un gros projet qu'on appelle A2X, 5 millions d'euros qui sont arrivés sur l'IUT pour refaire les bâtiments, entre autres cette zone. Ça nous permet aussi d'avoir des salles de TP grandeur nature, d'avoir de l'instrumentation pour la recherche qui se fait pour nos collègues enseignants, chercheurs. Et ce projet, son origine, c'est aussi de nous permettre de développer l'alternance. Donc on aura des salles dédiées où on pourra accueillir les entreprises et donc favoriser nos liens par alternance, parce qu'on a de plus en plus de licences professionnelles qui sont en train de s'ouvrir à l'alternance, à l'apprentissage. et des DUT aussi qui s'ouvrent à l'apprentissage.
C'est une sorte de bâtiment témoin aussi pour tous les étudiants qui étudient ça, finalement.
C'est ça, ils seront, ça fera leur salle de cours, ils seront dedans, ça fait aussi démonstrateur pour les entreprises, ça fait un petit peu témoin du savoir-faire et de, comment dire, des technologies de pointe qu'on sait mettre en œuvre dans un bâtiment. Comme vous disiez un peu tout à l'heure, un bâtiment exemplaire, c'est un petit peu l'idée qu'il y a derrière.
Donc jusqu'alors on a écouté pas mal de reportages réalisés, on rappelle, hein, par donc les étudiants du département génie, thermie et énergie donc de l'UT d'Allier de Montluçon. Ces étudiants ont travaillé notamment sur la production et la consommation d'énergie, c'était le premier volet. On va passer maintenant au deuxième volet, parce que chose assez étonnante, il y a quand même pas mal d'initiatives pour diminuer le réchauffement climatique, mais alors des choses assez hallucinantes d'ailleurs, hein, des choses très rigolotes. On va commencer avec le premier sujet peut-être éventuellement qui va pas loin d'ici, hein, juste à Demera.
Effectivement, quel est le rapport entre une pelouse et réduire les gaz à effet de serre? C'est la réponse que va nous apporter l'émission tout de suite.
D'accord, réalisé par quelques étudiants.
Alors il y a Louis, il y a Clément et il y a Junior qui sont allés interroger des personnes de Domera sur justement les pelouses au cœur de cet Euro 2016. C'était l'occasion d'aller parler foot.
Et c'est parti.
L'Euro de foot bat son plein, l'occasion de prendre la direction des stades. Quel lien avec le réchauffement climatique? Le choix d'une pelouse naturelle ou synthétique est plus complexe qu'on ne le pense. En quoi sont-elles liées au réchauffement climatique? Nous avons donc contacté M. Delon, responsable des espaces verts à Domera, et Mme Johanna, élue à la mairie de Domera.
Comme M. Delhomme l'a dit, les engrais sont en grande partie organiques, donc écologiques, ce qui est un bon point pour la pelouse naturelle. Nous allons maintenant nous intéresser à son entretien.
L'aspect vivant a beaucoup plus de contraintes, de climat, d'heures de jeu, de maladies qu'il n'y a pas sur le
terrain. Et puis il faut l'entretenir à la pelouse naturelle, il faut tondre régulièrement.
Il faut l'arroser, il faut faire des aérations, il y a beaucoup plus d'entretien.
Effectivement, la pelouse naturelle a beaucoup de contraintes au niveau entretien. Par exemple, le fait de tondre souvent va engendrer le rejet de gaz à effet de serre. Regardons maintenant du côté synthétique.
Oui, il y a quand même un entretien minimum pour ce terrain synthétique. Il est entretenu régulièrement, balayé, et puis on remet
de la gomme régulièrement, et on le décompacte aussi.
On ne traite pas une pelouse synthétique avec tout ce produit.
C'est vraiment du local. On ne fait pas quelque chose avec des rampes sur tout le terrain. On fait vraiment localement.
Donc, selon eux, l'entretien est moins important car il est surtout ciblé sur quelques parties du terrain et on n'a pas besoin de s'en occuper très souvent, contrairement au naturel.
Et comment on recycle un terrain synthétique? Voilà, je pense que c'est la question qu'il faut se poser. Mais nous, quand on a fait ce choix-là, on ne s'est pas posé cette question-là.
Pour conclure, la pelouse naturelle est liée au réchauffement climatique car on sait que l'herbe crée de la photosynthèse qui absorbe du dioxyde de carbone et libère de l'oxygène. Mais d'un côté, son entretien régulier est néfaste à cause des rejets de gaz à effet de serre, tondeuses entre autres. Et d'un autre côté, on a la pelouse synthétique qui empêche donc la photosynthèse, mais qui a besoin de beaucoup moins d'entretien.
Voilà, donc la pelouse, on fait quoi? Alors, qu'est-ce qu'on fait?
C'est une bonne question. Déjà, on essaye de prendre en compte le critère écologique, justement, qui est souvent pas forcément pris en compte.
Et l'élu le disait, d'ailleurs, il y a eu... peut-être que ça a changé maintenant, mais il n'y avait pas eu de réflexion à l'époque là-dessus.
Exactement. Alors que si on veut atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, eh ben, il faudra le prendre en compte.
D'accord. Quand on voit que pour la Coupe du Monde, le Qatar est en train de créer des pelouses, je crois que ce sera du synthétique, on crée aussi de la climatisation pour les stades, etc. Là, évidemment, en matière de réchauffement climatique et de développement durable, on est, il y a même pas débat.
On est dans le rouge, là.
Là, voilà, on est dans le rouge, on est dans l'exemple caricatural. Mais effectivement, faut pas oublier que pour produire une pelouse synthétique, il faut beaucoup d'énergie pour la recycler également. Donc, de fait, si les durées de vie ne sont pas aussi élevées que ce qu'annoncent les fabricants, ce qui semble être le cas, ils annoncent plus de 10 ans, et pour l'instant aucune n'a tenu plus de 10 ans, on risque bien d'avoir des bilans de rejet de gaz à effet de serre beaucoup plus importants que ce qu'ils annoncent sur leur site.
Parlons d'un sujet qui est très très à la mode actuellement, avec notamment des plateformes qu'on retrouve sur internet assez facilement, et même aussi d'ailleurs certaines boutiques en local, c'est l'achat local. C'est un sujet important ça aussi, hein.
Oui, je dirais qu'on y pense presque spontanément quand on parle un peu d'écologie et d'environnement.
Ce qui est nouveau.
Ce qui est nouveau, oui. Ce qui, pour relier au sujet précédent, ça mérite encore débat, notamment parce qu'il y a des études allemandes qui montrent que acheter local, c'est pas forcément si bénéfique en gaz à effet de serre. C'est bénéfique sur le changement des modes de production du côté des agriculteurs.
D'accord.
C'est dans un deuxième temps. Mais quand même, c'est une piste. En tout cas, là, les étudiants.
Ah, c'était leur prénom.
Oui, tout à fait. Lisangèle, Pierre-Paul, Lucas et Corentin sont allés demander aux gens concrètement. Acheter local, oui, non, pourquoi ?
D'accord, donc c'est un peu un micro-trottoir.
C'est ouais. Ça,
c'est parti.
À l'heure de la malbouffe, de la pollution de masse, de la mondialisation et du chômage, n'existe-t-il pas, sur le bassin montluçonnais, des alternatives aux consommations alimentaires actuelles qui permettraient de respecter le développement durable ? En effet, peut-on consommer des produits qui respectent davantage l'environnement ?
Est-ce que vous achetez local ?
Plutôt grande surface, plutôt 60% grande surface.
Dans la mesure du possible, quoi.
J'achète en grande surface, c'est plus pratique. J'ai mauvaise conscience, en fait. Mais je continue à le faire.
Nous, le légume, mon jardin, à la saison du jardin. Et plutôt la viande. Dans les volailles à la ferme, si on prend du lapin à la ferme. Voilà. Le bœuf, si on peut.
Non, pas forcément. Il faudrait vraiment qu'il y ait des infrastructures intéressantes.
Nous savons qu'il existe des infrastructures de type AMAP qui sont des associations pour le maintien de l'agriculture paysanne. Ces associations permettent ainsi de regrouper des agriculteurs. Êtes-vous intéressé par le principe ?
Ça, c'est pas mis en place encore sur mon lieu.
C'est vrai que pas forcément, parce qu'au moment où ils vont avoir des fruits et des légumes, moi je vais en avoir aussi dans mon jardin. Donc, parce que j'ai un jardin. Donc bon, c'est peut-être pas, ça sera peut-être pas le panier type moi qui m'intéressera forcément. Mais c'est vrai que oui, allez, chez les petits producteurs locaux pour le fromage par exemple, pour la volaille, pour...
La plupart des Montluçonnais estiment qu'il est plus facile d'acheter en grande surface. Mais il existe des alternatives. Nous nous sommes rendus à la MAP des courgettes qui se trouve à 2 minutes du centre-ville. Sylvain Fèvre, son président, nous a accordé une interview. La MAP présente beaucoup d'avantages. Car les produits sont réalisés à proximité, ils sont bio et donc sains. Aussi, les légumes sont vendus sous forme de panier, ce qui est un gain de temps pour les consommateurs. Le fait d'acheter des produits locaux entraîne une réduction de gaz à effet de serre. En effet, la plupart des grandes surfaces achètent des produits venant des pays frontaliers et ces produits sont ensuite acheminés par des poids lourds, ce qui a un fort impact écologique. De plus, le fait d'acheter ces fruits et légumes dans une AMAP favorise l'économie locale avec la création d'emplois dans le bassin.
Voilà donc ce reportage, on va dire, réalisé donc par des étudiants GTE donc de l'IUT d'Allier sur l'achat local. Concrètement, c'est bien, mais c'est vrai qu'en effet, des bananes, c'est difficile de faire pousser dans la région. Quoi. On est bien d'accord.
Hein. On est bien d'accord. Voilà. On peut simplement se dire sur certains produits alimentaires, surtout nous, régions d'élevage et régions de production agricole, ouais. On peut quand même. Il ne s'agit pas de tout changer, mais sur certains points, peut-être modifier un peu ses pratiques.
Et c'est vrai qu'aussi dans l'agglomération montluçonnaise, il y a beaucoup de gens qui ont un petit jardin aussi. Hein, donc ça fonctionne bien, pas mal. En tout c'est ça là en même temps, on se les échange tous, mais bon.
Quand ils sont pas sur sol pollué, c'est bien.
Ça va bien. Alors, on enchaîne avec le SICTOM, hein, donc de l'agglomération de la région montluçonnaise, qui, eh bien, lui aussi a des certaines initiatives assez originales.
Oui, quand l'homme n'arrive pas à réduire ses émissions de gaz à effet de serre, il fait appel aux poules. Donc, un reportage présenté par Irène, Corentin, Maxime et Mathias.
Elle raffole les déchets de nos assiettes au point d'arriver à en manger 140 à 145 kg par an. Le SICTOM de la région montluçonnaise a décidé d'utiliser l'alternative de la poule pour voler au secours de nos déchets alimentaires. Des foyers montluçonnais se sont vus confier ces mascottes. L'avis de ces privilégiés sur ce mouvement en tendance.
C'est sympa d'avoir des poules à la maison. Puis bon, on a des œufs frais, on sait d'où ils viennent ceux-là.
Faut y aller une à deux fois par jour, mais c'est 5 à 10 minutes. Le temps de vérifier si elles ont de l'eau, leur donner à manger, ramasser les œufs. C'est juste prendre un peu de temps pour s'en occuper. Puis on a construit un poulailler. On a participé au départ parce que nous on voulait acheter des poules. On commençait d'y regarder. Donc c'était déjà renseigné au niveau de la région de Montluçon pour être sûr qu'on ait le droit au niveau du voisinage. Je sais pas tant qu'à faire, autant en profiter et participer à une bonne action. Et c'est comme on avait le relevé qu'on faisait chaque semaine. On a vu diminuer le fait que on mettait plus les épluchures dans la poubelle, ça réduit quand même.
En plus d'être bien hébergées dans leur nouveau foyer, elles participent à la baisse d'émissions des gaz à effet de serre. Explication avec le chargé de com du SICTOM.
L'opération Poule Belle la Vie, on confie 2 poules aux habitants qui se portent volontaires pour que ces petites cocottes puissent manger les déchets et donner des œufs aux habitants. c'est dans le cadre du programme local de prévention des déchets. On essaie de faire comprendre aux gens, en fait, qu'il faut réduire les déchets. On essaie d'accentuer la communication à ce niveau-là pour faire prendre conscience aux gens que, qu'en plus, ils vont faire des économies s'ils font attention à ce qu'ils jettent.
Tous les foyers sont concernés.
On a distribué 200 poules, en fait, deux par foyer, donc 100 foyers ont été dotés. Il y a 3 ans qu'on a commencé ça. La première année, on a fait des foyers témoins qui ont pesé leurs déchets. Maintenant, on ne le fait plus parce que c'est quand même assez contraignant. Une poule va manger 140 kilos de déchets par an. Donc si vous multipliez par un grand nombre de poules, ça peut faire du chiffre, oui.
Cette réduction des déchets permet une baisse de la fréquence des collectes et du poids des déchets incinérés. Au final, ce sont moins de gaz à effet de serre dans l'atmosphère.
140 kilos quand même par an avec des poules. On recevait des gens du SICTOM il y a quelques jours à l'occasion de la semaine du développement durable. Il y a une vraie demande et ils peuvent même plus fournir les poules là pour le coup.
Ah, oui, oui. On peut en trouver en York au SICTOM aussi, hein, des
c'est
poules.
Vrai,
on est obligé de passer par le SICTOM, on peut prendre ces poules. Moi j'ai plein de
poules. Oui, mais ce sont des poules de luxe, paraît-il.
C'est vrai, ce sont des poules de luxe, c'est des poules estampillées SICTOM.
Non, mais c'est vrai que c'est des solutions. En fait, on revient à ce qui se passait il y a plusieurs décennies.
Ce sont des solutions toutes simples, mais qui font des économies simples, monétaires, parce que c'est effectivement moins de collecte, et qui font des avantages écologiques pour l'ensemble de la collectivité.
Ouais. On va parler maintenant d'un sujet que j'avoue, je ne maîtrise absolument pas. Donc c'est pour ça qu'il fallait en parler.
Oh, t'as bien un peu la tête dans les nuages, on s'entend, toi.
Ouais, ça c'est vrai. Parce qu'il se passe des choses directement dans les labos de recherche de l'IUT. Il me semble que c'est de ça dont on va parler tout de suite. J'ai oublié le nom de...
L'effélomètre.
Ah, voilà.
Bravo.
Alors là, on va vous expliquer parce que... Mais c'est bien de montrer aussi qu'il y a des choses qui se font directement à l'IUT. On va écouter ce reportage réalisé par...
Alors, réalisé par Gabriel, Victor, Théo. Effectivement, le mot dit certainement rien, néphélomètre. Tout ce qu'on peut vous dire, effectivement, c'est que premièrement, ils vont vous montrer qu'il y a de la haute recherche à l'IUT sur Montluçon qui pointe sur l'international. Et deux, tout simplement, je crois qu'ils vont vous emmener dans les nuages.
Ah.
Une équipe de chercheurs de l'IUT d'Allier travaille actuellement sur un effélomètre polaire à deux polarisations. Cet appareil permet d'étudier comment réagissent les particules des nuages avec les rayons du soleil ainsi que les rayons infrarouges qui sont réfléchis par la Terre. Monsieur Pascal Persson, enseignant-chercheur au département génie thermique et énergie de l'IUT d'Allier. Il nous explique pourquoi il est important de recueillir des données à l'aide d'un effélomètre.
Alors, c'est très important, vu que ça rejoint le réchauffement climatique. Comme notre atmosphère, il y a des particules dedans, eh bien, il va y avoir une partie de cette énergie qui va bien arriver au niveau de la Terre, mais une autre partie qui va être renvoyée vers l'espace. Évidemment, s'il y a beaucoup d'énergie qui est renvoyée vers l'espace, eh bien, la Terre sera froide. Si au contraire, il y a beaucoup d'énergie qui continue sa route jusqu'au sol de la planète, eh bien, évidemment, on va avoir plus chaud. Donc, cette interaction entre les particules et le rayonnement solaire interfère et surtout est nécessaire à comprendre pour quantifier quelle température il va faire à la surface de la Terre.
Un appareil bien utile, ce néphélomètre, mais pas seulement.
Il faut savoir, par exemple, que l'on a fait beaucoup d'études sur les traînées de condensation des avions. Et jusqu'à présent, tous les modèles du GIEC ne prennent pas ces traînées de condensation ne prennent pas en compte ces traînées de condensation. Jusqu'à maintenant, ils continuent à ne pas les prendre, mais ils se posent la question, est-ce qu'il va falloir les prendre en compte ou pas.
Et oui, nos petits voyages en avion n'ont rien d'anodin pour le climat.
Au niveau de l'Europe, on prévoit le doublement du trafic aérien dans les 20 années qui viennent.
Pour étudier et comprendre le climat, il est nécessaire que des scientifiques, comme les enseignants-chercheurs de l'IUT d'Allier, mettent au point des appareils permettant de faire les mesures adéquates afin d'étudier notre atmosphère.
Si l'atmosphère était à 99,9% comme elle est, et qu'on ignorait les 0,1%, on serait à moins 18 au niveau de la planète Terre.
Voilà donc un reportage sur le néphélomètre. Alors on va poser question quand même eh bien, à Fabien Forestier, donc, qui est le chef du département GTE. Concrètement, cet appareil, c'est quelque chose qui a été inventé par l'IUT de Montluçon. On est bien d'accord?
Oui, inventer, conçu, donc son dimensionnement, quelle forme donner aux pièces, conçu pour sa partie thermique dans le département génie thermique, conçu pour sa partie mécanique dans le département génie mécanique et productique, donc pour livrer tous les plans, et puis ensuite il a été réalisé par une société. Il nous a été livré, et depuis 96 à peu près, si je dis pas de bêtises, il est installé sur des avions qui font le, bah, des avions classiques, qui font le tour du monde, et donc il passe son temps à récolter ces données, les transmettre aux enseignants-chercheurs qui exploitent ces données et donc enrichissent leur recherche.
Alors, si j'ai bien compris, ça calcule un petit peu dans. Ça prend en compte certaines choses dans les nuages, en fait, pour le réchauffement climatique en plus, c'est...
Oui, si j'essaie, enfin, ça a été dit, si j'essaie de résumer, l'idée c'est qu'on veut comprendre le rayonnement qui arrive du soleil, est-ce qu'il va être réfléchi par les particules de l'atmosphère ou est-ce qu'il va arriver jusqu'à la Terre. Donc, eux, ils étudient justement la réflexion due à différents types de particules, suivant si elles sont des particules d'eau, des particules de CO2, ainsi de suite. Elles vont pas se comporter pareil avec la lumière, elles vont plus ou moins en réfléchir, plus ou moins en transmettre, et donc si elles en transmettent beaucoup, bah ça réchauffe d'autant plus la planète.
Alors je rappelle donc que tous les petits modules qu'on a écoutés jusqu'alors sont réalisés par des étudiants donc de la classe GTE de l'IUT d'Allier. Il en manque deux à passer, réalisés par deux élèves qui sont avec nous. On va écouter le dernier module juste après la pause.
Allez, on continue cette émission pendant encore 5 petites minutes autour du réchauffement climatique, les actions locales qui sont entreprises avec ces reportages réalisés par des étudiants du département GTE de l'IUT d'Allier à Montluçon. Vous croyez que la COP21 avait eu lieu à Paris? Eh bien, je vais vous donner une info. Non, elle avait lieu au LEM, au lycée Madame de Staël. C'est ce sur quoi vous avez travaillé tous les deux, notamment.
C'est sur ce sujet-là que nous avons travaillé. Donc, en effet, la COP21, après Paris, c'est à Montluçon que ça se passe. Et nous allons voir tout de suite ce que cela donne.
En apparence, un cours de lycée normal avec des élèves préoccupés par la difficulté du programme et l'arrivée du bac. Mais ces élèves se sentent plus concernés par l'environnement que l'on ne le croit. Retour au lycée Madame de Staël, le 12 décembre dernier. Les élèves de seconde et terminale réalisent une simulation de la COP21. Nelly Deprister, la professeure d'SVT à l'origine du projet.
Alors, ils avaient travaillé sur des groupes de pays. Ils étaient les représentants, comme à la COP21. Ils représentaient, c'était les ambassadeurs, en quelque sorte, d'un groupe de pays ou d'un pays. Et ils devaient à la fois défendre des intérêts de leur pays ou de leur zone, et puis participer normalement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, donc en fonction des promesses. Donc en fait, c'était sur des échanges diplomatiques, économiques, etc., pour arriver, si possible, à un accord type COP21.
Donnons la parole aux élèves.
Ça nous a permis en fait de se rendre compte de ce qui se passait en arrière, parce que nous, on entend juste quelques informations en radio, mais en soi, on savait pas vraiment ce que c'était. Et là, du coup, on a pu vraiment se rendre compte.
Ça nous montre, dans le contexte, comment est-ce que ça peut se passer en vrai, réellement, parce que on nous parle de la COP21, mais on ne sait pas exactement ce que c'est. Donc quand quand on fait une simulation, on est un peu comme dans la vraie COP21, et ça nous aide à comprendre les choses, parce que la télé, c'est pas très développé, donc c'est plus intéressant comme ça.
La réduction des gaz à effet de serre passe effectivement par la nouvelle génération. Des jeunes plus prévenus, ce sont des jeunes plus responsables et respectueux.
Voilà, sujet réalisé et notamment par, eh bien, ils sont là avec nous, Eve, Anne et Andrea. Ça s'est bien passé ce reportage là?
Très bien, merci. Et puis on n'était pas seuls, on était aussi accompagnés de Geoffrey et Camélia. Et à nous quatre, on a réalisé cette petite émission.
Et puis bravo à tous ces étudiants qui ont bien fait et réalisé donc ces 11 reportages, 11 petits modules, avec entre guillemets un peu les moyens du bord, faut bien l'avouer, techniquement ils sont débrouillés comme des chefs quand même.
Ils sont bien débrouillés, je pense. On peut les féliciter, effectivement. Bravo, ils ont pris du temps pour aller rencontrer les gens. Souvent prendre des contacts, c'est pas simple. Je pense que vous pouvez témoigner ici que les gens vous répondent. Ils ont rien lâché, j'ai envie de dire, et ils ont réussi à monter leur sujet.
Exactement.
Et puis je pense que c'était aussi intéressant pour nos auditeurs de voir qu'il y a des choses qui se font concrètement dans le bassin montluçonnais. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler de développement durable, de COP21. Pour beaucoup, c'est peut-être un peu nébuleux tout ça. On voit qu'il y a des choses concrètes qui se font, et c'était aussi le but de cette émission.
Et puis moi, je tiens à remercier Monsieur Favre d'avoir mis en place cet enseignement. Et puis vous et RJFM de nous avoir accueillis. Merci encore.
Je vous en prie. Émission que vous retrouvez également sur le site d'RJFM, www.rjfm.net. Il sera podcastable, donc on pourra l'écouter autant de fois que vous voulez. Il n'y a pas de souci en tout cas. Merci à vous tous et à très bientôt.
Merci.